J'aime bien l'agité du local du vendredi.
Ah oui, c'est le grand entretien. Eh, monte le son.
Le monde agricole porte aussi les enjeux du climat, de l'environnement et du bien-être animal. Mon invité d'aujourd'hui, Michaël Lepage, s'engage pour le respect de la terre, de la biodiversité et une vraie qualité de production dans sa ferme bio du Chéneau à Changé. Il sera à notre micro aujourd'hui pour nous présenter ou évoquer avec nous, à travers son expérience et son engagement, les thématiques qui seront développées lors de la conférence La Prairie et les Ruminants qui aura lieu le 7 février à l'Agricampus de Laval. Amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette agité du local. L'émission d'aujourd'hui se terminera bien sûr avec l'agenda culturel de la semaine, mais tout de suite, on jette un coup d'œil sur votre hebdomadaire Le Haut Anjou paru aujourd'hui. Cette semaine dans le Haut-Anjou, vous trouverez un dossier spécial sur nos petits cinémas locaux. Ils sont partis à leur rencontre à Segré, Château-Gontier, Renazé. Et bonne nouvelle, en ce début d'année, leurs gérants, associatifs, communaux ou privés, ont le sourire. À Château-Gontier, maintenant, la collecte des déchets coûte plus cher depuis janvier 2024. Et oui, plusieurs changements sont entrés en vigueur concernant le ramassage des déchets. D'abord, le tarif de l'abonnement augmente, mais le nombre de levées minimum pour bénéficier d'une remise change aussi. Le Haut-Anjou a été à la rencontre du service trilogique et de Gérard Priou, vice-président en charge des déchets. Plus d'informations à retrouver dans le Haut-Anjou en kiosque ou sur internet dès aujourd'hui. Et bien sûr, on vous l'a annoncé hier, mais je vous le rappelle, la Confédération Paysanne de la Mayenne organise une action ce samedi 27 janvier à 11h30 devant le Leclerc de Saint-Berthevin. Une action pour présenter leurs revendications à travers des panneaux, tracts, barbecue et échanges avec les citoyens. Parmi les revendications, ils demandent un arrêt des négociations de l'accord de libre-échange UE-Mercosur, que tous les accords soient réexaminés quant à la concurrence déloyale qu'ils créent, y compris au sein de l'Union européenne. Ils demandent également une loi interdisant enfin l'achat des produits agricoles en dessous du prix de revient. Bonjour Michaël Lepage, donc vous êtes agriculteur à la ferme bio du Chéneau à Changé.
Bonjour Margot, oui c'est bien ça.
Tout à l'heure je le disais, le 7 février se tiendra une conférence à Laval à l'amphithéâtre de l'Agricampus de Laval. Elle est organisée par le CIVAM Bio 53 et le CIVAM 53. Elle abordera donc la question de la prairie et des ruminants. Cette conférence sera animée par Jean-Louis Perrault, directeur de recherche à l'INRAE, chargé de mission à la direction scientifique agriculture à l'INRAE, et Luc Delabie, ingénieur de recherche INRAE à Rennes, au sein du département de physiologie animale et systèmes d'élevage. Et donc vous êtes un petit peu à l'origine de cette conférence qui s'organise sur notre territoire.
Oui, je suis un petit acteur du monde paysan de par mes engagements associatifs. Et donc l'an dernier, en 2023, je suis intervenu pour l'INRAE et la ferme du Haras au Pin en Normandie pour expliquer un petit peu comment je travaillais en pâturage pour à la fois des techniciens, des éleveurs, des jeunes en formation agricole et des chercheurs aussi. Donc je suis intervenu au mois de juin 2023 devant près de 300 personnes avec un autre collègue, et on a expliqué un petit peu tous les avantages, tous les bénéfices qu'on pouvait retrouver en faisant d'élevage laitier au pâturage. Et donc je suis toujours en lien avec quelques chercheurs de l'INRAE, et donc je les ai sollicités. J'ai sollicité Luc Delabie, qui est un ingénieur de recherche à Rennes, et Jean-Louis Perrault, qui est récemment à la retraite, mais qui a une casquette de directeur national de recherche, à l'INRAE également, et donc qui vont tous les deux intervenir dans 15 jours pour nous parler de tout l'aspect circularité et toutes les aménités autour de l'élevage à l'herbe. À la fois, on va parler des prairies, on va parler des ruminants, et puis on va parler de l'éleveur et de tout le microcosme à la fois, enfin, du monde vivant que cela englobe.
Vous, Michaël, vous êtes engagé en faveur d'une agriculture durable et écologique. Par exemple, sur une exploitation comme la vôtre, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement ?
Alors déjà je parle assez peu, animosité, mais je parle assez peu d'exploitation, mais je parle plutôt de ferme. Et donc sur notre ferme à nous, j'ai assez vite compris dans mes premières années d'installation qu'il y a déjà, en fait, une des missions finales du paysan, de l'agriculteur, était de produire de l'alimentation pour des humains, pour nos semblables. Et donc pour moi, il me semble que si on respecte le serment d'Hippocrate, qui fait que ton aliment soit ton médicament, ben, il faut produire de la qualité. Voilà, donc moi, je suis engagé depuis 25 ans sur ce que j'appelle de la cohérence qualitative, où j'ai les mêmes moyens quasiment de production qu'il y a 25 ans, mais ce que j'essaie de travailler en permanence au quotidien, c'est améliorer la qualité des produits, en l'occurrence du lait cru. Et donc, bah, je travaille pour ça concrètement. Ça veut dire que nos 45 vaches laitières normandes, eh bien, on essaie de travailler déjà sur la génétique des animaux, les placer dans les meilleures conditions de bien-être. Et puis après, c'est qu'est-ce qu'on fournit comme alimentation à ces animaux-là. Et en fait, on s'aperçoit, c'est tout bête, mais c'est juste du bon sens, que la vache, c'est un mammifère herbivore. Et comme son nom l'indique, elle a la capacité de transformer les photons du soleil, donc cette fameuse photosynthèse, donc les calories photosynthétiques, en calories alimentaires. Donc du lait, de la viande, voilà. Donc du coup, cette propriété que nous n'avons pas, puisque nous n'avons pas 4 estomacs qui transforment des acides gras volatiles en lait, etc. Mais nous avons la chance d'avoir des bovins qui transforment cette biomasse végétale des prairies, donc de l'herbe. Donc il existe tout un panel de variétés d'herbes et d'espèces qui vont se combiner entre elles, qui vont s'associer et qui vont s'enrichir l'une les unes les autres. Et qui vont faire qu'au final, donc pour le lait, pour notre ferme, ce lait va comporter, donc quand on s'intéresse à la biologie moléculaire du lait, fine du lait, va avoir une typicité, ce qu'on appelle des flaveurs, donc des saveurs, du goût, des odeurs particulières, vraiment sensorielles, qui sont bénéfiques pour la santé des humains. Et donc, ça, c'est, par exemple, c'est ce qu'on appelle des acides gras polyinsaturés, qui ont la particularité d'être des remparts contre certaines maladies. Enfin voilà, donc on a des bénéfices à faire pâturer les vaches laitières sur cet aspect alimentaire pour les êtres humains. Donc ça, c'est déjà rien qu'un aspect. Donc concrètement, comment on travaille sur la ferme, bien, on a mis en place autour des bâtiments plein de prairies. Voilà. Donc c'est les vaches disposent plus de quasiment 1 hectare de prairies chacune, donc ce qui est beaucoup. Oui. Et donc au fil des saisons, donc chez nous, c'est en général de février au mois de décembre, selon les conditions climatiques, elles vont pâturer en phase de cycle, ce qu'on appelle du pâturage tournant. Et donc chaque 12 heures, elles ont un nouveau repas d'herbe qui aura poussé naturellement pendant 6 à 7 semaines par le biais du soleil, la vie du sol, la macrofaune du sol, la matière organique du sol, enrichie par le soleil et la pluie. Et donc tout ça, ça fait de la biomasse supplémentaire. La vache va se nourrir de cette herbe-là. Et au bout de 12 heures, puisqu'il y a 2 traites par jour, bien le lait qu'on récupère est récupéré. Et puis pour notre ferme, est vendu pour partie en circuit court. Et donc est valorisé comme ça. Et donc nous, on a aussi la particularité d'avoir fait des choix de contraintes supplémentaires, de choix pour le consommateur, d'être parti dans 6 labels différents, donc évidemment l'agriculture biologique, et puis d'autres un peu plus spécifiques et plus pointus, et donc qui nous garantissent une traçabilité et le fait que les animaux sur la ferme du chéneau ne mangent que de la nourriture qui a poussé sur la ferme du chéneau. On n'importe aucun flux exogène extérieur de la ferme, si on veut. Donc c'est vraiment une nourriture qui est uniquement basée sur des prairies ou sur du foin l'hiver. Comme actuellement, les vaches, on est au mois de janvier, là, les vaches pâturent du foin qui est issu de prairies récoltées au printemps dernier.
Oui, parce que par exemple, il est assez courant dans une certaine agriculture de nourrir l'animal, de nourrir la vache avec du soja, par exemple.
Oui, alors c'est un petit peu les biais qu'on a mis dans le système agricole, dans des modèles agricoles un peu plus intensifs que les nôtres, où on a plutôt cherché à aller vers des orientations plutôt quantitatives que qualitatives. Nous, on a fait le choix du qualitatif, mais dans les fermes où on va chercher du volume, eh bien, on va plutôt avoir des rations alimentaires qui vont être très riches en énergie et très riches en protéines. Et malheureusement, en France, on ne cultive pas forcément les plantes qui sont très riches en protéines, type soja, pour l'exemple. Et donc, du coup, la France importe des dizaines de milliers de tonnes chaque année de soja qui sont essentiellement produites dans des plaines du Brésil. Et ce même soja, en général, et quand on regarde le cycle, on déforeste énormément de cultures, que ce soit de l'huile de palme, de la forêt, on va dire, endémique, pour y mettre de l'huile de palme ou du soja transgénique, pour ensuite l'acheminer, pour faire de l'ultra-transformation, pour alimenter des animaux. Donc effectivement, c'est des modes alimentaires qui sont plus intensifs à l'animal, qui n'ont pas les mêmes répercussions, et qui n'ont évidemment, quand on s'intéresse un petit peu à la recherche fine du lait, n'ont pas les mêmes propriétés alimentaires pour l'humain. Mais toujours est-il que dans notre ferme, nous, on recherche vraiment une complexité, une diversité de la flore.
Oui, parce que quand on parle de prairie, par exemple, donc ce n'est pas seulement de l'herbe, en fait, il y a une certaine diversité des espèces avec laquelle la vache se nourrit.
Derrière le mot prairie, pour quelqu'un qui n'y connaît pas, une prairie, ça reste vert, et c'est de l'herbe verte, mais en fait, il existe une multitude de richesses, et cette biodiversité prairiale participe aussi à l'augmentation des animaux, de la microfaune, de la macrofaune, des insectes et donc des oiseaux et donc de chênes trophiques qui sont emblématiques de nos campagnes. Et donc nous, concrètement, on a fait beaucoup de prairies. On a mis beaucoup de haies autour des prairies pour protéger les animaux des intempéries, notamment de la chaleur, parce qu'il fait de plus en plus chaud. Et l'objet de la conférence, ça va être de montrer que les bénéfices de la prairie à l'aune du changement du climat, comment est-ce que nos ruminants et nos prairies vont résister à des températures excédant les 50 degrés en été. Donc ces deux chercheurs vont nous exposer comment est-ce que l'on peut s'adapter ou atténuer. On a aussi les moyens d'atténuer, de stocker du carbone, d'avoir des pratiques moins émissives, donc de moins consommer de soja par exemple ou de cultures annuelles en réimplantant des prairies qui vont être multi-annuelles. Donc moi j'ai des prairies, les vaches pâturent des prairies qui poussent tous les ans que je ne ressème pas, elles se ressèment automatiquement par le vent, par la pollinisation des insectes. Donc la place des insectes est essentielle aussi dans nos fermes. Comment est-ce que cette diversité culturelle, cette richesse permet aussi d'alimenter des bovins de manière autonome. Donc c'est aussi l'objet de la conférence, c'est comment est-ce qu'on redonne une autonomie de décision du paysan, à savoir comment est-ce que son troupeau est alimenté, est-ce que c'est une boîte d'aliments qui décide il faut tant de kilos par vache, etc. Ou est-ce que c'est le paysan qui décide tel jour, parce que j'ai mesuré la hauteur d'air, parce qu'il me semble la meilleure pour l'animal à ce moment-là. C'est une rencontre, et c'est ce que va très bien développer Luc Delabie. Le sujet, c'est la rencontre entre une herbe sous sa diversité floristique et un animal sous sa diversité, on va dire, de la saison, du moment où elle aura mis naissance à son petit, de la diversité de ses besoins. Et c'est la rencontre des deux qui fait que nous, humains, on arrive à piloter ça et puis à extraire ce lait-là.
Et donc, ça fera partie des thématiques abordées lors de la conférence.
Donc il va nous expliquer avec plein d'études, donc il le mène depuis 30 ans sur à la fois en Bretagne, en Normandie et en Irlande, comment est-ce qu'on arrive à faire que ce mariage, cette combinaison soit la plus la moins compliquée à obtenir, même si c'est assez compliqué, c'est des sujets sur lesquels que Luc Delabie va aborder.
Et alors, vous le disiez, vous exercez votre métier avec des contraintes volontaires qui suivent, en fin de compte, les valeurs que vous portez. Comment on vit ? Est-ce qu'il y a un soutien suffisant pour ce type d'agriculture ? Est-ce que c'est difficile ?
Alors, il y a plein de choses à dire. Je ne suis pas sociologue ni anthropologue, mais donc ça fait 25 ans que je fais ce métier-là. J'ai fait des études agricoles, j'ai travaillé dans ce domaine-là avant. J'ai voyagé un petit peu aussi, en travaillant à l'étranger. Donc j'ai un peu de recul et effectivement, clairement, je pense que une belle des caractéristiques du monde paysan encore, comme moi je l'ai vécu par mes parents, mes grands-parents et les générations précédentes, c'est d'avoir une certaine autonomie dans la décision de faire des choix qui sont importants, qui façonnent quelque part le paysage.
Oui, l'autonomie pour vous, c'est essentiel.
Quand moi je replante chaque année 500 arbres, avec mon épouse Elisabeth et puis des personnes tierces, quelque part, on marque le paysage pour des centaines d'années. Enfin, on espère que ça va rester là pour des centaines d'années. Quand on fait le choix de réimplanter une prairie pour 15 ans, Ben voilà, c'est, ça marque le paysage pour, voilà, par important c'est de garder cette notion là de décision, de ne pas trop subir. Or on voit bien que le quand on externalise un maximum dans nos métiers, quand on délègue la partie administrative, quand on délègue la décision d'intervenir sur telle et telle culture, voilà, quand on externalise le prix de ces produits, parce qu'aujourd'hui c'est aussi une grosse question de savoir qui nous paye à quel prix, voilà, pour quelle valeur. Ben en fait, on perd cette autonomie décisionnelle. Donc, moi, j'évolue aussi en essayant d'accroître cette autonomie décisionnelle, en réintroduisant donc toute la partie technique alimentation autour du bovin herbivore avec des prairies. Mais aussi de l'autre côté, en essayant de valoriser mon produit, de faire en sorte de réintroduire du circuit court sur la ferme. Donc, sur la ferme, on a la chance, parce qu'en fait, mes grands-parents, mes parents et notre génération, on fait de la vente directe, on a toujours fait de la vente directe, donc on continue. Donc, on a toutes les semaines des citoyens qui viennent acheter le lait cru à la ferme, on vend un petit magasin de proximité en local, et puis on fournit également la restauration collective sur l'aval, les maternelles, primaires, collèges, lycées, restaurants d'entreprise, etc. Donc on arrive, nous, à fixer notre prix et à le valoriser pour partie. Donc c'est pas toute la majorité du lait, mais voilà. Donc ça redonne aussi un poids de décision.
Et tout ce poids décisionnel vous permet justement de garder cette sécurité économique et de maintenir cette exigence de qualité.
En fait, à mon installation, et jusqu'à aujourd'hui, je me pose en permanence deux questions qui sont comment est cheminé en fait le processus de production, parce que c'est pas moi qui produis, ce sont bien les animaux, ou comment est transformé le lait, et qui l'achète ce lait. Voilà, donc c'est comment et pour qui. Ces deux questions-là en permanence me réinterrogent, j'essaie de me faire mon autocritique en permanence, de dire, bah voilà, est-ce qu'on peut mieux faire toujours de la qualité, plus. Donc c'est pour ça qu'on est prêt, on est parti dans des engagements qualitatifs. J'essaie de me sortir de cet aspect, cette emprise économique qui est permanente, qui est voilà, prégnante, et d'aller plus sur des questions plutôt écologiques ou de vivant, prise en compte du vivant. Et j'ai assez vite compris que pour respecter le citoyen, le consommateur, moi-même, parce que je bois encore du lait, mes enfants, etc., il fallait que le produit soit de qualité et qu'il ait un minimum d'impact sur le vivant. Donc c'est pour ça qu'on essaie, nous, de préserver ce schéma de production plutôt basé sur l'herbe, parce qu'en fait on a compris très vite que le mode de production, donc basé par exemple sur le maïs, sur beaucoup de concentrés qui viennent de l'extérieur, etc., bah, ça avait un impact sur le paysage, sur la qualité de l'eau, sur les engrais, sur le climat, sur les engrais de synthèse par exemple qui sont fabriqués en dehors de la France, qui réclament beaucoup de gaz, sur les pesticides également. Donc ça c'est la qualité aussi de l'air que l'on respire, c'est des maladies que l'on contracte ou pas, sur les relations humaines qu'on peut avoir quand on vend son produit ou pas. Enfin, voilà, moi, quelqu'un qui vient m'acheter un litre de lait vendredi prochain à la ferme, je peux lui dire d'où vient exactement le litre de lait. C'est pas le cas de tous les produits. Voilà. Dans notre ferme, on garantit une traçabilité complète parce qu'on n'achète aucun aliment fourrager, aucun aliment concentré, aucun minéral, rien qui rentre sur la ferme. Donc c'est vraiment de l'autonomie complète alimentaire. Donc il y a aussi une volonté de rassurer le consommateur en lui disant, par votre acte d'achat en local, vous pouvez aussi garantir votre santé, celle de vos enfants et de vos aînés, et garantir aussi la santé des paysages, de la qualité de l'eau, la qualité de l'air que vous respirez, la beauté des paysages que vous pouvez voir aussi, parce que on a de plus en plus de gens qui sont malheureusement dans des situations psychologiques difficiles. Un des remèdes, quand on lit par exemple la philosophe Cynthia Fleury, le Caire, ce vers quoi on va redonner de la dignité et un peu de bien-être psychologique, c'est en allant dans la nature rechercher des espaces de vie qui plus inspirants, plus apaisants, voilà. Et bien en fait, le monde paysan aujourd'hui, ce vers quoi nous on tend avec plus de prairies, plus d'arbres, plus d'animaux dans les champs et moins sous les bâtiments, aussi c'est une manière de redonner aussi du baume au cœur pour les citoyens.
Michael, je vous propose qu'on fasse une pause musicale avant de terminer cet échange ensemble. On écoute Running de Norah Jones.
Thank you.
Nous sommes de retour dans l'agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Je suis en compagnie de Michaël Lepage, avec qui on aborde aujourd'hui différents thèmes qui seront abordés lors de la conférence qui aura lieu à l'amphithéâtre de l'Agricampus de Laval, une conférence sur le thème de la prairie et des ruminants. Vous, Michaël, vous êtes particulièrement impliqué dans la transmission de votre expérience justement du milieu agricole. Vous accueillez des groupes scolaires dans votre ferme et vous vous rendez également dans des établissements dans l'idée de sensibiliser aux méthodes agricoles qui respectent l'environnement.
Oui, effectivement. Alors après, je ne suis pas tout seul. Je fais partie de plusieurs réseaux, donc les réseaux CIVAM. Je fais également partie du réseau Ferme Paysans de Nature. Donc on n'est pas beaucoup en moyenne, on est une petite vingtaine. Mais voilà, derrière l'idée de ça, c'est de montrer aussi que on pourrait ne pas le faire, mais l'idée, c'est de montrer que l'on peut faire de la qualité, préserver le vivant. C'est vraiment une mission que Elisabeth et moi-même, on essaie de faire perdurer, d'accroître au quotidien. Et puis, c'est de le partager. C'est vraiment quelque chose, moi, qui me tient à cœur. Donc, c'est effectivement, chaque année, on reçoit sur la ferme à peu près une quarantaine de groupes. Il y a quelques minutes, j'étais dans une salle de classe du lycée agricole pour partager mon expérience. Voilà, c'est pas, en toute humilité, je ne suis pas enseignant, mais voilà, c'est aussi de montrer que à des jeunes générations de futurs agriculteurs, là, c'était des futurs agriculteurs qui passent un diplôme pour pouvoir s'installer, que l'on peut faire aussi différemment. Enfin, il existe plein d'agricultures au pluriel, et que celle que nous on défend, enfin, c'est-à-dire une agriculture plus proche du vivant, plus proche de la nature, plus en lien avec les cycles biogéochimiques du vivant, le cycle du carbone, le cycle de l'eau, le cycle du phosphore, etc. On peut aussi respecter l'humain et préserver sa sécurité alimentaire et son bien-être alimentaire. Et l'idée, c'est aussi de transmettre. De montrer que des fermes peuvent être transmissibles économiquement. Et là aussi, si on revient au sujet de la conférence, c'est des choses qui vont être montrées, que des fermes basées sur le pâturage qui dépendent moins de la mécanisation, du béton, de bâtiments, de robots, etc., sont quelque part plus transmissibles, avec moins de capitaux humains, et plus rentables. Moi, je fais partie d'un groupe de travail national sur l'Observatoire des chiffres technico-économiques, où on montre que les fermes du réseau en agriculture durable, voilà, ou biologique, sont plus performantes sur la rentabilité. C'était vrai là jusqu'il y a encore 2 ans, mais ça l'est toujours, mais un petit peu moins actuellement parce qu'il y a une dépréciation des produits biologiques. Mais elles sont plus rentables sur la rentabilité par rapport aux capitaux engagés. Et ce qui compte, comme un jeune, là j'avais une trentaine de jeunes en face de moi, enfin jeunes ou moins jeunes, mais qui vont s'installer bientôt, ils s'interrogent beaucoup sur le montant de capital qu'ils vont devoir investir. Alors, il y avait des maraîchers, il y avait des éleveurs bovins lait, il y avait des apiculteurs, etc., quelle que soit la production, mais n'empêche que voilà, c'est la question du montant du capital et de la rentabilité, c'est-à-dire le salaire que je vais pouvoir me dégager chaque mois de mon activité, par rapport à ce remboursement que j'ai des emprunts que je vais faire ou de l'autofinancement que je vais avoir, est-ce qu'il est bon ou pas? Et donc le référentiel que l'on montre, sur lequel je travaille avec d'autres collègues, montre que les fermes en système pâturant sont quasiment au double d'efficacité par rapport aux capitaux engagés. On est sur du 15-20% quand on est sur du 5-10% pour des fermes plus intensives qui demandent beaucoup de mécanique, beaucoup de robotisation, etc. Évidemment, on n'est pas sur les mêmes flux de productivité à l'animal ou à l'hectare, mais du coup, ça nécessite dans nos fermes beaucoup moins de capitaux. Donc aujourd'hui, dire à quelqu'un, vous allez travailler pendant 30-40 ans avec des prix très aléatoires, avec des investissements énormes dès le début de votre carrière, ça peut faire peur, je peux comprendre. N'empêche que voilà, dans des systèmes plus souples, on redonne aussi de l'autonomie financière, une capacité. Alors, on essaie de travailler aussi à montrer à la jeunesse qu'il est important de respecter ces chaînes du vivant, de respecter les oiseaux, les vers de terre, les colamboles, plein de vie, il y a plein de vie, hein. 80% de la biomasse du vivant, elle est sous nos pieds, elle est dans les sols, donc on se bat avec plein de collègues contre l'artificialisation des sols, faut-il continuer à faire des routes dont on sait où un jour le pétrole s'arrêtera, on aura du mal à enlever ce bitume-là dans quelques décennies ou siècles, parce qu'on a besoin de manger, il y a de plus en plus d'êtres humains, donc l'incohérence de l'équation, c'est de plus en plus d'humains, de plus en plus d'artificialisation, donc ça veut dire une agriculture avec plus d'impact sur le climat, parce qu'il faut produire encore plus, sauf que c'est le mauvais schéma, Le bon schéma, il est de dire, on fait avec ce qu'on a déjà, on protège, on l'améliore et on montre que produire avec du vivant, en le respectant, c'est se respecter soi-même et c'est respecter à terme 10 milliards d'êtres humains.
Merci Mickaël. Les thématiques que l'on vient d'aborder ensemble seront abordées et développées lors de la conférence « La prairie et les ruminants ». Je le rappelle qui a lieu à l'amphithéâtre de l'Agricampus à Laval le 7 février. Il faut réserver, je crois.
L'amphithéâtre est quasiment plein, donc c'est un amphithéâtre de 300 personnes et on doit être à 270, donc il reste quelques places pour venir écouter donc deux chercheurs qui vont vous expliquer très bien toutes les aménités, l'aspect circularité, les avantages que l'on a à préserver des prairies, des ruminants et de l'élevage.
En tout cas, merci Mickaël pour votre présence et pour votre partage d'expérience. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Avant de terminer cette émission, bien évidemment, c'est l'agenda culturel de la semaine. Je vous en parlais la semaine dernière, ma région Virtuose propose des concerts sur l'ensemble du territoire. N'hésitez pas à regarder la programmation des différentes structures que vous connaissez bien près de chez vous pour découvrir les différents rendez-vous qu'elles vous proposent ce week-end. D'ailleurs, l'autre radio sera présente pour une émission spéciale demain à partir de 10h en direct et en public au Théâtre de Laval. Elle sera animée par Lucie, que vous connaissez bien. Elle interrogera notre rapport à la musique classique avec trois invités programmés au festival Ma Région Virtuose. Aujourd'hui, on se projette un peu plus loin, par exemple, avec le Théâtre de Laval qui accueille le 3 février l'artiste Fada Freddy. Son premier album en 2016, The Gospel Journey, était un mélange de gospel, de soul, de pop et de ragamuffin avec 300 concerts à travers le monde. Son retour était attendu. Il revient aujourd'hui avec un EP annonciateur d'un futur album. On le découvre donc sur scène entouré de 5 vocalistes sans instrument, armés de sa voix unique, de son art du beatbox et des body percussions. Rendons-nous maintenant à Sablé-sur-Sarthe avec la programmation du Théâtre L'Entracte qui vous propose un rendez-vous musical le 3 février avec David Lafort. Alors David Lafort, il ne faut pas chercher à l'enfermer dans une case. Aucune n'est assez vaste pour résumer son univers. Pour son 6e album d'ailleurs, La tête contre le mur, il a créé la surprise accompagné de sa guitare en introduisant des plages synthétiques, autotunes et des sons échantillonnés. Il a sorti son dernier opus Toc 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 à l'automne 2023 et c'est celui-ci que vous pourrez découvrir en live au Grand Hôtel de Solesmes. On termine avec le Carré de Château-Gontier et pour cela, on écoute Christine Houdard, directrice de la programmation Jeune Public.
Au mois de janvier, on accueillera également une proposition Jeune Public donc qui va être à la croisée de la danse et du cirque. Donc ça s'appelle Le Mensonge, c'est tiré d'un album du même titre. Et c'est l'histoire, alors c'est une histoire sans parole, d'une petite fille qui un soir dit un mensonge à ses parents. Et ce petit mensonge qui a l'air de rien, on ne sait pas de quel sujet ça parle, mais on sent que petit à petit ça pollue son environnement et ce mensonge va se matérialiser sous la forme d'une boule rouge qui va devenir de plus en plus envahissante, qui va occuper toutes ses pensées. Et donc, on va voir un peu la lutte intérieure de cette petite fille, comment arriver à évacuer, à se débarrasser de cette chose qui lui pèse. Et donc, c'est très visuel. Ils sont 4 au plateau et c'est très physique, donc assez dynamique. C'est un spectacle familial à partir de 3 ans. Le spectacle dure à peu près 50 minutes. Et c'est vraiment un très beau moment de danse à partager en famille. Et du coup, ça démarre à 3 ans, mais c'est accessible, je pense, jusqu'à 10, 11 ans et même plus. Voilà.
Nous voilà arrivés à la fin de cette émission. À 19h, vous écouterez Dance Hall Social Club. Comme chaque vendredi, on se replonge dans une certaine nostalgie musicale. Samedi, vous commencerez votre week-end avec notre émission spéciale Ma Région Virtuose en direct et en public du Théâtre de Laval. L'après-midi continue en musique, mais plus rock avec Rock Dreams et Rock à la Casbah. Dimanche matin, à 11h, l'équipe de Sport Épique vous parle des actus sportives en Mayenne et ailleurs. Interview, quiz, débat, tout ça dans la bonne humeur qu'on leur connaît bien. Nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission de l'AJT du local. D'ici là, allez écouter de la musique et surtout, faites-le bien.
Mince, c'est fini et j'ai loupé un bout de l'émission.
T'inquiète pas, tu peux la réécouter en podcast sur l'autreradio.fr.